Il y en a très et il faut créer un système de suivi et de contrôle. Alors ceci fonctionne relativement bien pour l'Église catholique et pour l'Église protestante, mais pour le culte musulman, il n'y a pour le moment rien qui existe de cet ordre-là.
Il y a des problèmes de salaire, parce que nous sommes payés par, nous sommes payés parce que, en raison de leur
mais ils il n'y a rien à présenter. L'enseignement religieux à l'école publique est totalement distinct de la question des cultes reconnus et non reconnus. Ce sont deux législations différentes. Vous avez d'un côté les cultes reconnus qui sont organisés par des textes qui datent essentiellement de l'époque napoléonienne ou quelques années après, et vous avez l'enseignement religieux qui est essentiellement de la deuxième moitié du XIXe siècle, et notamment de l'époque allemande, qui a généralisé cet enseignement. Donc ce sont deux législations distinctes. Par contre, c'est faux. L'État n'aurait pas de difficulté pour rémunérer des enseignants musulmans, mais encore faut-il qu'il y ait des enseignants musulmans, que ceux-ci soient formés, qu'ils soient reconnus, qu'ils sachent ce qu'ils ont à enseigner, et qu'il y ait tout un appareil, en quelque sorte, de suivi. Alors, pour le moment, il y a une discussion autour de cette question. Il y a, dans l'ensemble, plutôt un a priori favorable à ce que cela se fasse. Parce que, aussi bien du côté des autorités musulmanes que des autorités publiques, on pense qu'il est bien préférable qu'il y ait un cours organisé de religion musulmane que des enseignements, je dirais, plus ou moins sauvages et dépourvus de tout contrôle.
Pardonnez-moi de mettre ici une réserve, je parle de l'intérieur, il y a quand même une crainte au niveau des cultes reconnus que l'instauration de cours de la religion musulmane dans les collèges et les lycées puisse amener à une sorte de phénomène de conversion ou de pression progénétique durant lequel les enseignements des plus reconnus ne cadraient pas. Il y a quand même une réserve latente.
Je comprends bien qu'il y ait, bien sûr, des réserves sur la bonne insertion de cet enseignement dans le système tel qu'il existe.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de l'Église musulmane non plus. Il y a des réserves dans l'Église, on le sait.
Les réserves ne viennent, à ma connaissance, pas tellement des Églises, moins pas de l'Église protestante, mais de l'Église catholique. Les réserves viennent d'abord, je dirais, en ce qui concerne l'enseignement universitaire, viennent de milieux laïcs qui ne veulent d'aucune manière que l'exception que représente les facultés théologiques catholiques et protestantes se trouve étendue au culte musulman. Donc il y a plutôt une exception, je dirais, il y a plutôt une hostilité des milieux qu'on pourrait appeler laïcistes. Du côté des cultes catholiques et protestants, il n'y a pas, du moins pas en principe, d'opposition à une évolution en ce sens. Ceci est d'autant plus vrai que, instaurer un enseignement religieux musulman serait indirectement une consolidation de l'enseignement religieux catholique et protestant. Aujourd'hui, un des principaux griefs que l'on fait à cet enseignement catholique et protestant, c'est qu'il serait privilégié, qu'il serait discriminatoire, puisqu'il n'y aurait pas un enseignement de ce type pour l'ensemble des religions. Alors, en développant un enseignement religieux pour les cultes musulmans, on démontrerait qu'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de, disons, d'inégalité entre les religions. Ceci dit, un tel enseignement, s'il devait être introduit, nécessite quand même toute une série de mesures d'accompagnement pour être sûr qu'il se passe dans de bonnes conditions. Toutes ces difficultés, toutes ces inquiétudes font que les choses n'ont pas beaucoup bougé véritablement. Il y a bien eu quelques tentatives de former des responsables religieux musulmans à l'université, mais tout ceci est resté pour le moment à l'état d'ébauche que de véritables systèmes construits. Et que voyons-nous alors parallèlement? C'est que des initiatives privées sont entreprises, notamment par l'État turc qui a décidé de créer un institut privé d'études supérieures musulmanes actuellement en cours et qui me paraît, je voudrais vous soumettre, et qui me paraît être une chose intéressante, consisterait à dire, d'un côté, nous avons un problème de fréquentation des élèves, de l'autre côté, nous avons cette question de cultes qui n'ont pas pour le moment d'enseignement organisé. Ne serait-il pas envisageable d'avoir la place de l'enseignement confessionnel, c'est-à-dire catholique, protestant, musulman peut-être à l'avenir, d'avoir un enseignement en quelque sorte interreligieux qui s'adresserait à l'ensemble des élèves et qui aurait pour objectif de transmettre une information sur l'ensemble des religions à des jeunes qui en savent de moins en moins sur le sujet. Donc ce n'est pas un enseignement du fait religieux comme cela est évoqué parfois dans le reste de la France, parce que quand on parle de fait religieux, on veut se placer de manière totalement objective, distanciée, parler du catholicisme ou du culte juif, comme on parle des dieux grecs ou de la religion égyptienne. Non, je dirais, ce ne serait pas vraiment satisfaisant. Ce qui serait consonant, et qui se fait dans certains pays, c'est d'avoir un groupe de responsables spécialistes religieux, des prêtres, des rabbins, des pasteurs, des enseignants musulmans, qui définissent ensemble un contenu d'un enseignement religieux et se partage. Et ainsi, l'ensemble des élèves aurait une information qui leur serait fournie par quelqu'un qui adhère vraiment à cette fonction et non pas par quelqu'un qui leur enseignerait le fait religieux comme il enseigne la géométrie. Hein. Voilà. Alors ça, cette idée d'un enseignement interreligieux est une chose qui est tentée déjà actuellement dans certains établissements alsaciens, notamment des établissements professionnels. On a, je dirais, une population qui est particulièrement, je dirais, exigeante au niveau de l'intérêt, je dirais, de cet enseignement. Et ça marche bien. Quand les élèves ne sont pas, par principe, dépourvus d'intérêt pour les questions religieuses. Ce qui ne les intéresse pas, c'est qu'on vienne leur raconter, je dirais, des choses d'une manière qui... qui ne les branche pas. Mais à partir du moment où on vient leur parler de problèmes spirituels et religieux de manière engagée et, je dirais, ouverte, ils sont parfaitement capables de s'intéresser à ce sujet. Et, bien sûr, l'idée qu'on avait autrefois de séparer les élèves à l'occasion du cours d'enseignement religieux, c'est aussi une idée qui ne marche plus très bien aujourd'hui. Les élèves se sentent former une communauté et il est important de renforcer la communauté scolaire, qui est déjà divisée à bien d'autres égards. Et donc, l'idée, ce serait de s'adresser à eux de manière, indifférenciée, mais en leur présentant les différentes traditions religieuses, par les responsables de ces différentes traditions. Voilà, ça c'est une idée qui est actuellement expérimentée dans certains endroits, mais qui, pour le moment, reste encore tout à fait marginale. Alors, cet enseignement religieux, je crois que c'est un aspect tout à fait positif aussi de notre droit local, parce que je crois que notre société, est trop marquée par le matérialisme, et qu'il y ait un moment où les élèves entendent un autre langage qui leur est adressé par des personnes qui évoquent leur foi, c'est quelque chose qui ne me paraît pas aller à l'encontre du principe de neutralité de l'État, mais qui me paraît au contraire le comporter. Une école où serait bannie la démarche de foi n'est pas une école neuve, c'est une école contre, une école où on propose aux élèves la possibilité d'avoir un dialogue sur ces sujets, d'avoir une information sur ces sujets, est une école qui ne méconnaît pas le principe de notre acte. Donc, cette évolution de l'enseignement religieux, nous avons là, une fois de plus, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, des difficultés qui sont liées aux spécificités du droit local, un droit qui est en grande partie archaïque, je dirais, au niveau de ses règles, des règles anciennes, qu'il faut interpréter plus ou moins péniblement pour les adapter aux circonstances actuelles, et un droit qui est contrôlé à Paris, puisque c'est un droit national d'application géographique, ce qui rend les évolutions difficiles. Quand on parle avec les responsables politiques, dans l'ensemble, ils sont tous très intéressés par ce droit local, ils sont tous très sensibilisés, ils estiment que c'est une chance pour cette région d'avoir cette particularité, mais quand on leur demande de s'en occuper de manière un peu plus active, ils sont tous gênés aux entournures, parce que c'est un sujet qui est considéré comme délicat, comme sensible, comme complexe, un sujet sur lequel on a plus de coups à recevoir que des loges à engranger. Et donc, il est difficile de trouver, je dirais, des responsables politiques, quelle que soit leur couleur, qui veulent bien un peu se retrousser les manches pour suivre ces questions. C'est la raison pour laquelle nous avons structure particulière qui n'a pas d'autorité, de compétences spécifiques, mais qui est au moins là pour renseigner, pour étudier, pour proposer des évolutions. C'est l'Institut du droit local alsacien Mosellan, donc que je représente ici. Bien, je voudrais vous proposer peut-être maintenant de clore cette exposé et de répondre encore à vos questions si vous avez.